radiovostok.ch.
On prend maintenant un moment de réflexion pour s'interroger sur la culture et les artistes avec Anne-Claire Adet et ses deux invités. Un format un peu spécial pour Radio Vostok, 20 minutes de discussion sans musique. La question que tu as voulu poser ce soir, Anne-Claire, c'est comment vivent les artistes ?
Bonsoir Lola. Écoute, oui, quand on parle de rémunération des artistes, certains peuvent s'imaginer une vie rêvée de star, des cachets mirobolants. Mais la réalité de la majorité des artistes, elle est bien moins rose, voire très très préoccupante. Les revenus des professionnels de la culture, ils sont souvent bien inférieurs à ceux des autres professions, et particulièrement en cette période de crise sanitaire. Alors pour en parler ce soir, j'ai invité deux personnes qui travaillent sur ces questions depuis plusieurs années. Nicolas Rivet, toi tu es membre du groupe Rosa Brooks qui a mené avec d'autres une vaste enquête sur les conditions de travail des artistes à Genève. Rosa Brooks c'est un groupe qui organise aussi des expositions, mais là vous avez vraiment participé à une coalition pour réfléchir sur l'action de la rémunération, on va en parler dans un instant. Et puis Barbara Django, bonsoir. Toi, tu es la co-directrice du théâtre du Grütli à Genève avec Nathalie Sugnot et vous menez une réflexion au sein de votre théâtre sur la rémunération des artistes et des compagnies. Alors, c'est des problématiques que tu connais bien parce qu'avant d'être directrice d'un théâtre subventionné, tu as été pendant de nombreuses années de l'autre côté, si on peut dire, en tant que chargée de production et de diffusion pour la compagnie de Oscar Gomez Mata. Alors, si j'ai voulu vous réunir tous les deux ce soir, c'est parce que vous portez, chacun dans votre discipline, art visuel d'un côté et théâtre de l'autre, un regard assez nouveau sur la question de la rémunération des artistes. Et je voulais commencer avec toi, Barbara. Dans le magazine Novembre-Décembre, que vous publiez au Grütli, qui est intitulé « L'inutile », tu as écrit un texte sur la question de la rémunération des artistes. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à t'emparer de ce sujet ?
Alors, oui, deux mots. En fait, ce texte raconte que quand on veut faire un spectacle d'art vivant, en fait, on reçoit des subventions quand on a un lieu et quand on est en production ou en phase de production. En gros, quand tout va bien, ça peut être 8 semaines. Pour les compagnies un peu plus établies, ça peut être un peu plus. Mais il y a une sorte de standard comme ça qui va de 6 à 8 semaines de création, c'est-à-dire répétition, montage, réflexion, écriture de texte, etc. Puis après, 2 à 3 semaines, voire moins maintenant, de moins en moins, de représentation. Donc en fait, on travaille, on est payé en tant qu'artiste de la scène quand on produit. Tout ce qui est avant, tout ce qui est de la réflexion, de la conception, toute l'élaboration d'un projet est totalement bénévole, hein, ou en tout cas invisible, hein, dans le processus du subventionnement comme il existe aujourd'hui. En fait, la plupart des comédiennes et comédiens et tous les gens qui travaillent autour de ça sont au chômage. Donc, ils sont ce qu'on appelle intermittents, si on peut dire ça comme ça. Et en fait, ils travaillent alors qu'ils sont au chômage. Ils travaillent à l'élaboration de leur projet. Après, ils s'arrêtent, ils bossent avec une autre compagnie, ils font des voix à la radio, enfin plein de choses. Mais en fait, ils ne sont pas du tout payés pour tout ce moment-là de recherche, de laboratoire, d'exercice, d'entraînement. Mm-hmm. Ils ne sont jamais payés.
Ce qu'on voit dans ton texte, c'est que finalement, les artistes sont un peu des travailleurs bénévoles. Toi, Nicolas, donc, dans le cadre du groupe Rosa Brooks, vous avez obtenu un mandat de la ville de Genève avec le groupe Garage, Lab of Arts et Hélène Marietto pour mener une vaste étude sur la rémunération des artistes en art visuel. Vous avez interrogé 275 personnes actives dans l'art contemporain. Ce que vient de dire Barbara, les artistes sont souvent au chômage. C'est la même chose qui se passe dans le domaine des arts visuels ?
Oui, c'est vrai que donc ce travail collectif qui a été mené par plusieurs associations a permis de rendre compte et surtout de rendre compte au milieu politique que les artistes en fait ou les personnes qui travaillent aussi avec les institutions, nous on considère en fait que toute personne qui travaille avec des institutions doit avoir une rémunération ou en tout cas doit avoir des conditions de travail qui sont satisfaisantes pour ces personnes-là. On s'est rendu compte que c'est vrai que par exemple 90% des participants ont un emploi alimentaire. Dans le domaine, soit dans le domaine culturel, soit hors de ce domaine. Donc ça montre en fait que leur activité principale qui est de travailler en tant qu'artiste, finalement, elle est presque secondaire en ce qui concerne les ressources financières.
La Barbara disait que les artistes sont payés entre 6 et 8 semaines pour une création. Dans les arts visuels, comment ça se passe ? À quel moment, en fait, un ou une artiste est rémunéré ?
En fait, en ce qui concerne les expositions, par exemple, c'est vraiment très récent qu'il y ait des rémunérations. Généralement, c'est sous forme de cachets. Donc, c'est des cachets très symboliques. Par exemple, il y avait une curatrice qui s'appelle Elena Filipovic qui disait, de toute façon, les artistes, les rémunérations sont des faits symboliques. parce que les artistes passent tellement de temps à élaborer des expositions, ou les commissaires d'exposition d'ailleurs aussi, qu'à la fin, le centre d'art ou l'institution ne peut pas, disons, subvenir à tous les frais et toute la rémunération, notamment la recherche. Après, il faut savoir que pour les personnes qui travaillent dans le milieu de l'art, la réalité financière est extrêmement composite. C'est-à-dire que le fait de pouvoir exposer permet aussi d'avoir des résidences, permet aussi d'avoir des bourses, permet aussi d'avoir des prix, permet aussi d'enseigner. Enfin, toutes ces réalités permettent aussi d'avoir une galerie, de vendre des œuvres d'art. Et c'est toutes ces sous-ressources financières qui permettent de rémunérer les artistes.
Mais après, concrètement, si on regarde les chiffres, il y a des chiffres assez effarants dans le rapport. Ouais. Les rémunérations moyennes, par exemple, tu veux nous en dire un mot ?
Oui, bah voilà. Alors ça, c'est vraiment c'est le vrai problème. C'est que 70% des artistes, quand même, déclarent, ou des personnes qui travaillent avec les institutions ou qui sont dans le milieu de l'art, déclarent qu'ils gagnent moins de 30 000 francs. Et moins de 30 000 francs, Si on regarde le seuil de pauvreté à Genève, ça se situe quand même à 37 000 francs annuels. Donc, une grande majorité des personnes qui travaillent dans le milieu de l'art, en fait, sont sous le seuil de pauvreté. Ouais.
Barbara, la situation au niveau du théâtre ou des arts de la scène, elle est un peu différente ou on est dans les mêmes chiffres ?
Oui, elle est différente parce que depuis, je ne sais pas quand, mais historiquement, la scène à Genève, en tout cas, elle s'est... structuré, organisé, en tout cas dans les années 60-70, hein, facilement, si je prends le Grütli et les compagnies indépendantes. Et puis, il y a un syndicat aussi, pardon, qui est le SSRS, qui est à Lausanne, qui a établi aujourd'hui un salaire minimum, mais ce n'est pas obligatoire, c'est un salaire minimum suggéré, qui est de 4 500 francs bruts. Hein. Alors, sachant que ce n'est pas fois 12 ou 12,5 ou 13, c'est quand on travaille. Donc, ça peut être 2 mois sur une année, donc ça fait 9 000. Donc, je ne connais pas, il n'y a pas une étude qui a été faite comme celle qu'on fait Rosa Brooks, mais j'imagine que pas mal de comédiens sont en dessous aussi de ces 37 000 francs annuels, sachant qu'ils ont quand même, eux, souvent ce gain intermédiaire au chômage, qui leur permet, je pense, en tout cas, d'aller au-delà de ces 37 000 francs. Mais en tant que d'argent gagné par leur travail, qui en plus est un travail... ils ont un diplôme, hein. Maintenant, la plupart des artistes plasticiens ou comédiens sortent d'école, hein. Donc ils ont une formation qui a un diplôme. Et donc c'est un travail, hein. C'est pas une passion, oui aussi, mais c'est pas qu'une passion ou un job juste pour se faire plaisir, c'est vraiment du taf. Et donc oui, c'est 4005, ce qui est très très bas. Souvent vacances comprises, enfin bref. Mais je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, Nicolas, c'est quand on parle de cachet, moi, à chaque fois, ça me fait bondir, parce qu'en fait, légalement, il faut savoir que le mot cachet n'existe pas. C'est soit on est salarié, soit on est indépendant en Suisse. Ça, c'est vraiment un truc hyper légal, je suis un peu formelle, comme ça, un peu formaliste, mais en fait, si on veut vraiment être dans les clous et dire qu'on fait partie d'un tissu économique en Suisse, on est soit des salariés, soit on est indépendant et on fait des factures. Mais le cachet, c'est une déviation d'un mot qu'on utilise en France, mais pas en Suisse.
D'accord. C'était plutôt dans le genre de sorte de forfait, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ne donnent pas... Et après, dans les statuts par rapport à l'enquête, il y a environ 36% d'indépendants, 36% qui n'ont pas de statut du tout, ouais, et qui sont salariés par une association, c'est 16%.
Donc, c'est une question, la rémunération d'artiste, qu'on se pose depuis très longtemps. Je voulais vous faire écouter un petit son, c'est un extrait de la pièce Un faible degré d'originalité de Antoine Defort, qui est produit par l'Amicale Production. Écoutez, ça dure 2 minutes.
Alors, les droits d'auteur, à quoi ça sert ? Eh bien, pour le comprendre, je vous propose de remonter le temps pour se plonger dans le contexte historique de leur apparition, c'est-à-dire à peu près ici. Voilà. On est au tout début du XVIIIe siècle en Europe. Que se passe-t-il ? C'est l'effervescence, c'est l'ébullition, c'est le branle-bas de combat. Bah oui, c'est le siècle des Lumières. Ah ouais, d'accord. Donc effectivement, le branle-bas de combat intellectuel, chamboulement philosophique, c'est l'avènement de la raison, de la connaissance, de l'art, de la culture, qui sont autant de torches flamboyantes qui viennent illuminer une population qui était auparavant réduite à ramper dans les bas-fonds humides et dégoûtants de l'ignorance. Des torches qui vont repousser l'obscurantisme jusque dans les recoins de la société. Alors qu'est-ce qui fait que ces gens qui finalement se complaisaient pas mal dans les bas-fonds humides et dégoûtants depuis des centaines d'années ont soudainement envie d'allumer des torches un peu partout ? Eh bien, ce qui change la donne, vraisemblablement à l'époque, c'est l'arrivée de l'imprimerie. On observe une augmentation phénoménale de la capacité de reproduction des livres, quoi, des œuvres imprimées, tac, 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 tac. Donc le livre devient peu à peu un bien de consommation courante. Il y a plus, de plus en plus de lecteurs et de lectrices. Et donc, les gens veulent lire des trucs. C'est-à-dire qu'on va observer une augmentation de la demande de littérature qui va induire corrélativement une augmentation de l'offre. C'est-à-dire que toute une génération de jeunes gens va décider d'embrasser la profession d'auteur, de devenir voilà, travailleur, créateur et créatrice et travailleuse intellectuelle. Waouh ! C'est le bouillonnement, quoi. Intellectuel. Blablabla. Un bouillonnement qui, d'ailleurs, va tout changer, enfin va faire émerger des questionnements sensibles à tous les plans de la société, on le sait, économique, politique, culturel, et donc en particulier sur la question justement de la place de ces auteurs, la place, le rôle et la fonction des auteurs, des artistes auteurs dans la société, des auteurs qui jusque-là étaient quand même fort mal lotis. En termes de rémunération, ils avaient par exemple le choix entre en gros deux statuts assez peu enviables. On avait d'un côté le mécénat, ok, et de l'autre le bénévolat, pur et simple. Ah.
Voilà, alors vous entendiez la voix d'Antoine Defort dans la pièce Un faible degré d'originalité. On est avec Barbara Django et Nicolas Rivet. Nicolas, on entend que depuis le XVIIIe siècle, les artistes ont deux options, le mécénat ou le bénévolat. Ça n'a pas beaucoup changé, non?
En fait, je voulais rebondir sur l'apparition du droit d'auteur, parce qu'il y avait un des avocats de la Beaufarce qui s'appelle Yaniv Benamou. Donc c'est une association avec laquelle on organise des permanences juridiques au bureau des compagnies. Yaniv nous avait indiqué, par rapport au droit d'auteur, donc à l'apparition des droits d'auteur, qui n'étaient pas pris en compte pour les peintres et les sculpteurs de l'époque, car on considérait que leur inspiration venait de Dieu, qui était donc le véritable auteur des œuvres. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est avec la Révolution française et le texte des droits humains que tout d'un coup, en fait, on considère que l'être humain a une conscience, qu'il est émancipé du fait religieux, et donc qu'on peut lui reconnaître des droits d'auteur.
Donc on peut dire qu'il y a eu déjà une certaine marge de progression. Dans cette deuxième partie de la discussion, je voudrais qu'on réfléchisse. Voilà, on a vu, les constats sont durs, c'est sévère, c'est vraiment pas joyeux. Qu'est-ce qu'on a comme piste pour arriver à une situation qui soit plus juste, plus équitable, qui reconnaisse le travail fourni par les artistes et qui ne soit pas condamné à être d'éternels bénévoles? Nicolas, je sais que vous êtes pas mal inspiré du fonds Mondrian, par exemple. Qu'est-ce qui se passe au fonds Mondrian?
Donc, durant la soirée qui a été organisée... il y a une semaine, le Fonds Mondrian donc était présent et il nous a parlé de ce qu'ils ont mis en place dans les Pays-Bas.
Donc c'était la présentation du rapport à la aide à Genève.
Exactement. Ouais. Durant ce rapport, donc ils ont parlé de leur expérience et ce qui se passe, c'est que eux ont mis en place un fonds de transition pour aider les institutions subventionnées qui rémunéraient les artistes ou les personnes qui participaient aux programmations de leur institution. Donc ce fonds de transition permettait d'aider ces institutions, quoi. Mais ce qu'on remarque, et c'est ça c'est pas un très bon... Donc alors, quand même pour dire quand même l'idée de combien étaient rémunérées ces personnes-là, pour une exposition qui est personnelle, c'est environ 6 400 €. Et ensuite, les artistes qui participent à cette exposition, les personnes qui participent à cette exposition touchent un cachet pendant la durée de l'exposition. Donc ça peut être par exemple 400 € pour une exposition personnelle par mois. Donc ça tourne autour du 1 000 €, ce qui fait, s'il y a 4 mois de recherche, ça fait 2 000 € pour chaque mois, quoi. Donc c'est pas beaucoup, hein, mais ils se basent sur le salaire minimum aux Pays-Bas. Et un truc qui est quand même pas rassurant, c'est qu'ils nous ont dit quand même avec ce fonds de transition, que les institutions avaient tendance à faire moins d'expositions. Et la problématique à Genève, c'est que ce fonds de transition n'est même pas envisagé. Et donc, du coup, c'est un peu un serpent qui se mord la queue. Donc, les personnes sont rémunérées, mais il y a moins d'expositions, donc il y a moins de personnes qui sont rémunérées. Et en fait, ça peut être aussi... Donc, c'est un peu une sorte de cri d'alarme par rapport aux politiciens qui doivent quand même essayer de mettre en place ce type de fonds pour aider aussi le milieu artistique, quoi.
D'accord. Barbara, je te vois acquiescer. Tu veux rebondir là-dessus?
Oui, les solutions. Donc, nous, on n'est pas. Moi, je ne suis pas politicienne, mais disons qu'on peut souffler des tas d'idées aux politiciens, puisqu'on vient du terrain. Donc, on a les mains dans le cambouis toute la journée. Donc, ce qu'on évoque comme piste de réflexion, c'est des pistes de réflexion. Bien sûr, après, la mise en place, c'est autre chose. Mais une des premières choses, par exemple, ce serait de souffler au canton, qui pourrait revenir dans la course à la création.
Si jamais ils nous écoutent.
Voilà, si jamais ils nous écoutent. donc depuis 1er janvier 2017, la loi sur la répartition des tâches fait que le canton ne peut plus donner d'argent, en tout cas en théâtre, pour la création en théâtre et en art vivant. C'est la ville seulement qui donne de l'argent pour la créa. Donc on se disait, tiens, la recherche, tout ce moment comme dont je parlais tout à l'heure, non rémunéré, ça pourrait être une piste pour que le canton puisse soutenir les artistes avec, pour revenir là-dedans. Après, il pourrait y avoir effectivement un fonds de transition, comme tu le dis, ou un fonds universel pour les artistes, ou carrément un revenu minimum universel pour ces artistes. Ce qui nous a fait penser à ça, c'est que pendant tout le confinement, on n'a pas arrêté d'entendre « ça nous manque d'aller au théâtre, d'aller au cinéma, d'aller aux expos, etc. » les gens se précipitaient sur Internet pour voir des captations de spectacles, souvent pas faites pour ça, donc pas génial. Et tout d'un coup, on s'est dit « mais ça manque tellement aux gens d'aller au théâtre, d'aller... mais ces gens-là, faut bien qu'ils mangent, faut bien qu'ils remplissent leur frigo, qu'ils payent leur assurance, surtout dans un pays comme la Suisse. Donc il faut quand même bien réussir à payer ces gens, quoi. On en a tellement besoin. Donc si c'est un réel besoin, la société devrait pouvoir faire quelque chose pour eux et elles. Donc voilà, ça c'est un peu les pistes de réflexion. Il pourrait y en avoir plein d'autres, hein. On n'est pas non plus des... il peut y avoir plein d'autres idées. Mais en tout cas, il faut aider absolument les artistes à travailler pendant les moments d'improductivité qui seraient peut-être inutiles pour certains, d'où le titre du journal. Est-ce que c'est vraiment inutile ?
Nicolas, du coup, c'est quoi les suites par rapport à cette étude ? Il y a eu une première présentation la semaine dernière, on vient de le dire. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? C'est quoi les prochaines étapes ?
Maintenant, ce qui devrait se passer, c'est de mettre en place un barème de rémunération pour les institutions. Et aussi, en fait, il n'y a pas de rémunération sans contrat de travail. C'est qu'à un moment donné, si on rémunère quelqu'un, mais qu'on dit qu'il n'y a pas de production, il n'y a pas de monteur pour l'aider, et ben, du coup, la rémunération est en quelque sorte un cachet de production qui se dit pas, quoi. Donc du coup, le problème c'est ça, c'est comment réussir à mettre en place aussi des contrats de travail et aussi des façons de travailler avec les institutions. Après, c'est clair que l'idée, c'est pas de... Sans fonds de transition, en fait, sans argent en plus, c'est clair que ça va pas aider les institutions ni les artistes, ou en tout cas ou toutes les personnes qui travaillent dans le milieu de l'art, quoi. Après, au niveau de tout ce qui est recherche, il existe en fait une bourse qu'on a regardée récemment qui s'appelle la bourse MacArthur aux États-Unis et qui pourrait être en fait une idée intéressante quand même pour aider, soulager les contraintes financières des artistes. Et c'est exactement ce que dit la bourse, et la bourse est assez énorme, c'est 500 000 $ sur 5 ans pour permettre à des artistes, des scientifiques, des économistes de nationalité pour le coup plutôt américaine ou vivant sur le sol américain à développer leur travail sans condition justificative ni de déclaration. Et en fait, c'est versé mensuellement. Donc c'est-à-dire que pendant 5 ans, ces personnes-là sont financées pour développer la pratique qu'ils ont déjà et sans contrepartie.
Ça ressemble à un revenu de base, mais financé par du mécénat privé.
C'est ça. Pour le coup, par contre, c'est financé par du mécénat privé. Mais le revenu de base, je pense que le revenu universel concerne pas simplement le milieu de l'art, mais concerne vraiment tout le monde, en fait.
Ouais. Pour toi, Barbara ?
Oui, bien sûr. C'est clair que là, on parle des artistes, mais il y a plein d'autres gens qui sont vraiment dans la mer, d'autant plus en ce moment. Je suis désolée pour le gros mot, mais c'est ça. Et c'est vrai que, voilà, on peut parler des artistes, mais il y a plein d'autres professions qui sont comme ça. Ce que je trouve intéressant dans ce dialogue rapide avec Nicolas et le monde de l'art plastique, c'est que c'est vrai qu'on a des pratiques très différentes, hein, que nous, en art vivant, on est plus structurés parce que ça fait longtemps que ça existe et puis que ça fait longtemps que les pouvoirs publics nous donnent de l'argent et que les montants alloués à l'art vivant sont beaucoup plus importants en termes de subventions. Mais je pense qu'on doit vraiment... travailler ensemble, collaborer. Je pense que tout ce que vous racontez dans votre étude et tous ces fonds dont tu parles, moi je trouve que c'est vraiment des pistes hyper intéressantes aussi à creuser pour nous dans le domaine de l'art vivant. Parce que je crois qu'il faut croiser les pratiques, que ce soit sur les plateaux, mais aussi dans la production et dans l'administration, parce que autrement on ne va pas s'en sortir, quoi.
Ok, bah, merci beaucoup, je pense que c'est une conclusion parfaite. La collaboration et travailler ensemble, c'est ce qui a permis de faire avancer les choses dans le théâtre, c'est ce qui permet de faire avancer les choses en ce moment dans les arts visuels, et je crois qu'il y a vraiment quelque chose à se mettre en place en ce moment. On va rendre le micro à Lola. Merci beaucoup Barbara, merci Nicolas d'être venu ici.
Ouais, merci à toi.
Lola, on te rend l'antenne.
Ouais, bah, merci à toi Anne-Claire, merci Barbara, merci Nicolas. Bon, c'est vrai que là on vient d'évoquer plein d'idées pour d'éventuelles solutions quant au problème de la rémunération des artistes. Bon, c'est vrai qu'en 20 minutes, c'est inenvisageable, mais c'est important d'en parler et d'alerter, et ça je pense que c'est quand même important. Et on va écouter un petit son de Mac DiMarco, Finally Alone, histoire un petit peu de se décontracter et puis d'être un peu dans de good vibes.
Radio-Vostok.ch.